Ça y est, nous sommes là de manière à vous proposer ce magazine du jour. Nous avons la joie d'avoir avec nous sur notre plateau deux grandes dames qui militent bien pour notre population dans un cadre bien défini. Premièrement, nous aurons Madame Varin et deuxièmement Madame Thoron, avec elle nous ferons un point autour de cette thématique, comment et où se loger en zone de sismicité 5. Alors, on va d'abord saluer Madame Varin. Bonjour à vous.
Bonjour, bonjour
tout le monde. Merci d'être des nôtres, pardon. Alors, nous avons la joie de vous avoir. Vous êtes la responsable de l'unité plan séisme Antilles. Alors, c'est quoi vraiment la DEAL pour ceux qui méconnaissent cette structure?
Oui, alors, la DEAL Guadeloupe, la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, est une structure d'État à côté du préfet et qui est la fusion, en fait. Les gens ont encore en mémoire la DDE. Et la DIREN et la DRIR, c'est une fusion de ces trois administrations qui forment aujourd'hui la DEAL.
C'est vous qui avez mis le désir de présenter cette thématique, alors pourquoi l'avoir choisie?
Oui, alors depuis les années 2000, hein, un certain nombre d'études ont mis en place un certain nombre de doutes sur la situation des Antilles françaises. Et donc le gouvernement a instauré en 2007 un plan séisme Antilles. Un plan séisme Antilles parce qu'il fallait en mettre un, dans la mesure où les Antilles françaises, Guadeloupe et Martinique, sont situées en zone de sismicité 5, la plus forte pour la nation française. Et donc, nécessité de former, d'informer, d'éduquer cette population, nécessité d'agir sur des volets qu'on appelle matériels, c'est-à-dire les constructions, la réduction de la vulnérabilité du bâti, et nécessité de former, d'éduquer des gens par des actions immatérielles. Mm-hmm. Donc, cette émission que Radio Vaumeilleur nous permet de réaliser aujourd'hui, que nous remercions une fois de plus, parce que ça nous permet d'instaurer avec la population un certain nombre de communications, et parce que l'émission est interactive, nous permettons à nos experts locaux d'intervenir et de former la population sur des thèmes divers. Et donc, pendant un mois de mois, Radio Vaumeilleur nous permet, met à notre disposition ce créneau horaire qui permettra donc nos experts, nos ingénieurs, nos architectes d'ici, et même d'autres experts sur le logement, d'intervenir pour que cette population puisse, c'est la seule solution que nous avons aujourd'hui, dans la mesure où le plan séisme, le risque sismique est un risque qui n'est pas prévisible. La science aujourd'hui ne nous permet pas de prévoir, donc nous n'avons pas beaucoup de solutions. À part sensibiliser, nous avons un risque cyclonique qui est saisonnier. Les gens savent qu'à partir du mois de juin, qu'il faut mettre des choses en place, qu'il faut préparer la maison. Mais pour le risque sismique, nous n'avons pas cette solution-là. Donc, nous n'avons pas d'autre solution que sensibiliser, informer, pour que la population intègre dans ses habitudes un certain nombre de comportements pour garder la vie, parce qu'il n'y a pas d'autre solution.
Très bien, vous parlez tout à l'heure d'experts locaux. Nous avons une experte sur le plateau. On vous laisse le soin de la présenter.
Oui, alors aujourd'hui, la première émission va être introduite par Madame Thoron, qui est géotechnicienne, donc qui connaît bien la mécanique des sols, et qui va animer cette émission sur la sismicité, et qui va donc parler à la population sur des choses simples qu'elle doit savoir. Elle se mettra au niveau de cette population, des choses simples sur la mécanique des sols, la manière de construire, les lieux où il faut construire, et le respect de ces lieux, parce que c'est pas tout de dire un homme sauté là qu'a construit ici, non. Il y a un certain nombre de choses qui sont en place, qui étaient mises en place par l'État, avec les collectivités, et donc il faut absolument que la population comprenne qu'on peut pas construire n'importe où, et qu'on peut pas construire n'importe comment. Donc je laisse Madame Thoron le soin de se présenter.
Oui, bonjour, donc je suis Madame Thoron, je suis une géotechnicienne, je travaille dans un bureau d'études en Guadeloupe. On est installé en Guadeloupe depuis 13 ans et du coup je connais assez bien effectivement le territoire guadeloupéen et les problématiques de sismicité et de construction parasismique.
Pour toutes ces personnes qui nous rejoignent maintenant sur la 93.3, comment et où se loger en zone de sismicité 5? Alors pourquoi faire un zonage sismique? Et déjà, qu'est-ce que c'est qu'un zonage?
Alors, un zonage, c'est on va définir une carte avec différentes zones, et dans le cadre du zonage sismique, on va définir il y a une carte qui définit les zones où on a un risque faible d'avoir des séismes et des zones où on a un risque fort d'avoir des séismes. Il faut savoir que dans le monde, il y a des dizaines de milliers de séismes qui se passent tous les ans. Beaucoup ne sont pas ressentis. Il y en a qui sont ressentis de façon catastrophique, comme celui qui a eu lieu en Équateur il y a quelques jours, ou il y a encore 2-3 jours. Il y en a eu un au Pérou et il y en a eu un au Japon. Sur le territoire français, puisque c'est celui qui nous intéresse, le risque sismique n'est pas le même partout. D'où la nécessité de faire ce zonage pour, dans les zones où il y a un risque élevé de survenue d'un séisme, prévoir une réglementation adaptée et des règles de construction qui seront adaptées. Pour revenir un peu d'abord sur, si on a un zonage sismique, ça veut dire qu'on a la survenue de séismes. Donc un séisme, pour le rappeler très brièvement, il se passe principalement dans une zone où on a deux plaques tectoniques qui sont en contact, soit elles s'étirent, soit elles se rapprochent. Dans les roches, ça crée des tensions très très importantes, il y a une accumulation de tensions, jusqu'à un moment où les tensions sont telles qu'il y a rupture, et cette rupture libère de l'énergie qui va se propager qui va se dissiper sous forme d'ondes sismiques. Et c'est ces ondes sismiques qui traversent le sol, qui font la vibration et qu'on va ressentir en surface et qui vont créer éventuellement des désordres dans la structure. Donc voilà pourquoi la nécessité
de faire un zonage sismique.
Un zonage sismique.
Qu'est-ce que le zonage justement sismique ?
Depuis 1992, il existait déjà un zonage sismique qui déterminait plusieurs zones de sismicité. Et il a été revu en 2010. Il y en a un nouveau depuis 2010 et on a ressenti la nécessité de modifier ce zonage pour tenir compte de l'évolution des connaissances. Donc on a une meilleure connaissance de la sismicité sur le territoire et pour intégrer surtout les nouveaux codes de construction européens. Donc celui qui nous concerne pour la construction, c'est l'Eurocode 8. Donc il fallait se mettre à jour. Donc ce nouveau zonage définit 5 zones de sismicité croissante. Une zone 1 où il n'y a jamais ou quasiment jamais de séismes qui peuvent se produire, jusqu'à une zone 5. Donc la Guadeloupe, la Martinique et les îles périphériques sont en zone de sismicité 5. C'est la zone la plus forte qui existe en France. Et dans ces zones-là, on sait que des séismes peuvent se produire. Et en raison de ces séismes, il faut qu'on ait une réglementation et des règles de construction qui soient adaptées. Donc ces règles de construction, elles vont aussi être adaptées en fonction du type de bâtiment. On ne va pas imposer les mêmes règles pour une villa individuelle ou pour un bâtiment important.
Quelles sont les différentes catégories justement de bâtiments ?
On a deux grandes catégories d'importance de bâtiments qui sont chacune divisées en deux sous-catégories. On a des bâtiments qu'on appelle à risque normal, donc dans lequel se placent les villas individuelles. Donc c'est de cette catégorie de bâtiments dont j'ai un peu plus parlé. Donc les maisons individuelles sont des bâtiments de catégorie d'importance 2. Les constructions, par exemple, pour les animaux, les étables, les trucs comme ça, ou les garages, ce sont des constructions de catégorie d'importance 1. Donc nous, on est les villas individuelles, c'est catégorie d'importance 2. Et puis, on a des bâtiments de plus forte catégorie d'importance, où le risque va être plus élevé. Ce sont tous les bâtiments où s'ils sont endommagés, s'il y a une défaillance au niveau de ces bâtiments, ça va engendrer des conséquences importantes. Donc c'est sur tous les bâtiments qui sont nécessaires à assurer la sécurité, à assurer les soins hospitaliers, donc on va voir les hôpitaux, les casernes de pompiers, les bâtiments recevant un grand nombre de publics, les bâtiments pour le maintien de l'ordre public, les bâtiments qui concernent aussi les télécommunications, parce qu'on est dans un monde où la télécommunication est super important. Donc si vous avez le central de télécommunication qui est endommagé et qu'on peut plus communiquer, on est dans une situation, si on est dans une situation de risque, on ne peut plus faire passer les informations. Donc ces bâtiments, qui sont de catégorie d'importance 3 et 4, vont être soumis à une réglementation plus stricte que les bâtiments de catégorie d'importance 1 et 2, puisque leur défaillance aura des conséquences beaucoup, beaucoup plus graves Si le mur de votre salle à manger est lézardé suite à un séisme, ça va pas empêcher ça va pas vous empêcher de vivre. Si le mur du bloc opératoire est lézardé, ça va empêcher de faire des opérations en milieu aseptique. Donc il faut bien voir. C'est pour ça qu'on a différentes catégories d'importance, parce que les conséquences ne seront pas les mêmes.
Alors, on se met à la place d'un auditeur qui est là aujourd'hui et qui dit, ben voilà, je souhaite maintenant acheter un bien immobilier en Guadeloupe. Que dois-je faire?
Alors, il y a deux choses. Soit vous achetez une construction qui est déjà existante. La nouvelle réglementation ne vous concerne pas, puisque le bâtiment, il a été construit à une époque en fonction des normes de cette époque-là. Par contre, il faut quand même, j'invite toujours les gens à aller vérifier au niveau du plan de zonage réglementaire, enfin donc des plans de prévention des risques naturels, dans quelle zone ils sont par rapport au plan de zonage réglementaire. Donc ça, c'est différent du zonage sismique. Le zonage sismique, ça dit, en France, il y a des zones où il peut y avoir des séismes, des zones où il y aura peu de séismes, des zones où il y aura beaucoup de séismes. Et ça va définir un cadre réglementaire pour la construction. Parallèlement à ça, il y a des plans de prévention des risques naturels qui vont intégrer d'autres risques que le risque sismique, qui vont être le risque de mouvement de terrain, le risque d'inondation, etc. Donc déjà, commencez à regarder sur ces documents-là qui sont consultables en ligne sur un site qui est PPRN 971 Guadeloupe. C'est un site interactif.
On va reprendre, justement, c'est une belle information.
Alors, le site, si vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche, PPRN 971 Guadeloupe, tout attaché, vous allez tomber sur un site qui a été mis en place par la DEAL, où vous pourrez rentrer, sélectionner votre commune, rentrer les références cadastrales de votre parcelle, c'est-à-dire deux lettres et une série de chiffres, et vous aurez directement l'information pour savoir dans quelle zone vous êtes par rapport au risque naturel, si vous êtes en zone inondable, etc. Donc commencez à consulter ça. Sachez que les bâtiments qui sont en zone rouge, normalement, ce sont ceux qui sont soumis à un risque important, soit d'inondation, soit de glissement de terrain, soit de submersion marine. Donc évitez d'acheter un bâtiment en zone rouge, vous risquez d'avoir des soucis. Vous voulez acheter un bâtiment, une construction qui existe déjà, vous n'êtes pas concerné par les nouvelles règles. Par contre, si la construction que vous achetez, vous voulez y faire des aménagements importants, modification de sa structure, ajout d'une extension, enfin si vous voulez faire des modifications qui vont être casser des murs, etc., à ce moment-là, vous allez rentrer de nouveau dans le cadre des nouvelles règles. Dès l'instant que vous modifiez un existant, les nouvelles règles de construction vont s'appliquer à vous. Alors, il y aura le principe général des travaux que vous allez réaliser sur un bâtiment existant, c'est qu'ils ne doivent pas aggraver la vulnérabilité au risque sismique. Donc, vous ne devez pas faire des travaux. Votre bâtiment, il peut être bien construit. Si vous faites des travaux, par exemple, vous habitez un mur important, vous allez rendre votre bâtiment plus vulnérable au risque sismique. Donc ça, vous ne pouvez pas le faire. Donc il faut que vous ayez l'appui d'un ingénieur structure et qui va vous dire, en fonction des cas par cas, soit j'améliore mon bâti, soit je réalise des travaux lourds, soit je crée une extension. À chaque fois, il va pouvoir vous guider et vous dire comment faire ça pour intégrer les nouvelles normes de construction qui n'étaient pas celles qui avaient cours quand le bâtiment a été construit. Donc ça, c'est très important. Vous achetez un bâti ancien, vous n'y touchez pas, vous n'êtes pas concerné par les règles. Vous y faites des modifications de structure ou vous ajoutez une extension, vous êtes concerné par les nouvelles règles de construction.
Alors, oui.
Donc chacune des cas de figure, les règles seront modulées, les exigences parasismiques ne seront pas forcément les mêmes. Mais je vous répète, dans tous les cas, faites intervenir un spécialiste de la structure. C'est des ingénieurs en bâtiment, des ingénieurs structure, qui, eux, seront à même de vous dimensionner correctement les solutions.
Dites-nous, concernant ces ingénieurs structure, ils sont là uniquement pour aider d'une façon gracieuse ou est-ce que...
Non, ce sont
d'accord.
Tous des...
Des professionnels qui doivent...
Ce sont des professionnels qui se rendent dans le cadre de ce qu'on appelle les bureaux d'ingénieurs conseils.
Très bien, voilà.
Donc ce sont des structures privées et forcément ça a un coût. L'ingénieur structure, il va vous faire un devis, il va se déplacer chez vous et il va vous faire un dimensionnement. Donc il y a une prestation intellectuelle qui, elle, est payante. Ce n'est pas des structures d'État. C'est, vous avez un projet, vous allez payer votre maçon, payer l'architecte. Et bien, pareil, si vous faites intervenir l'ingénieur structure.
Nous avons parlé du fait d'acheter un bien immobilier. Et maintenant, comment ça se passe si on veut construire ?
Alors, si vous faites construire, du coup, là, vous êtes tout à fait concerné par les nouvelles normes. Et j'ai dit tout à l'heure que le nouveau zonage sismique, il était aussi pour se mettre en conformité avec les eurocodes, donc les normes européennes. Donc pour la construction, c'est l'eurocode 8 et l'eurocode 7. Donc il faut bien comprendre que la structure, qui est le squelette solide de votre maison, doit être dimensionnée selon des règles parasismiques en vigueur. Donc ça, c'est le rôle de l'ingénieur structure. Mais votre maison, elle repose sur quoi ? Elle est ancrée dans un sol. Et quand il y a un séisme, les ondes sismiques, qu'est-ce qu'elles font ? Elles se propagent dans ce sol. Et donc, c'est via le sol et via les fondations de votre maison que ces ondes sismiques vont arriver jusqu'au bâti qui est construit et qui risque de... et qui va le faire bouger. Donc, connaître le sol va permettre à l'ingénieur structure de prendre les bons paramètres pour le dimensionnement de la construction. Du coup, il est nécessaire, alors il n'est pas obligatoire, je dis bien moi qu'il est nécessaire, d'avoir une étude de sol qui va permettre aux géotechniciens de définir les paramètres de comportement du sol, qui va pouvoir dire le sol il est de telle classe et donc il faut prendre tel facteur, tel paramètre, etc. Et l'ingénieur structure, en fonction du projet fait par l'architecte, du type de maison et des paramètres du sol, va pouvoir dimensionner correctement votre structure. Ce qu'il faut bien se mettre en tête, que, comme l'a dit Madame Françoise Varin tout à l'heure, le but de ces règles, c'est pas d'embêter les gens et de leur mettre des bâtons dans les roues au moment de leur construction, mais le seul objectif de ces règles, c'est d'avoir un bâti qui va être suffisamment résistant pour ne pas s'effondrer sur lui-même et pour ne pas causer des pertes humaines. On ne peut pas, au XXIe siècle, dans un pays développé comme est la France, continuer à ignorer des règles de construction qui vont permettre de sauver des vies en cas de survenue d'un séisme. Ça, c'est vraiment... Il faut se mettre ça, ça en tête. Elles sont là pour protéger la population, toutes ces règles-là.
Mais vous avouez aussi que c'est quand même lourd comme démarche à faire au préalable, même avant de construire. C'est lourd quand
même.
Alors
oui, alors quand on s'engage dans un projet de construction, il y a le choix du terrain. Il y a savoir comment on va faire la maison. Est-ce qu'on veut une maison avec un étage, pas d'étage, un demi-sous-sol? Donc il y a la partie qui est plutôt sympathique, on imagine, on crée sa maison, les espaces de vie qu'on veut avoir. Et puis après, il y a les contingences techniques, il y a la qualité du sol, la pente du terrain qu'on va avoir acheté, etc. Et tout ça vont faire que des fois les projets, le projet qu'on avait d'une belle et grande maison, on va devoir le réduire parce que techniquement ça va être trop compliqué ou ça va être trop coûteux parce qu'il va falloir faire des murs plus ou moins importants. Donc c'est vrai que ça peut être vécu comme quelque chose de qui va réduire le projet, enfin les ambitions ou le projet qu'on portait, il va peut-être devoir être réduit pour des choses qui sont très triviales, comme simplement des problèmes techniques ou un coût financier qui sera important. Mais toujours, il vaut mieux construire plus modeste et être sûr que sa maison tient que de faire une grande maison sans avoir pris les conseils des uns et des autres, avec une structure qui sera mal faite et qui risque de flancher s'il y a un gros séisme qui survient.
Si on a envie de construire, est-ce que c'est uniquement ces éléments donnés qu'il faut absolument exploiter?
Alors,
ou bien a-t-il encore d'autres?
Avec les plans de zonage réglementaires des plans de prévention des risques sismiques, les zones sur lesquelles le risque est important, l'aléa de mouvement de terrain, de liquéfaction, de submersion marine, ces zones-là, elles sont en rouge, elles sont inconstructibles. Donc en théorie, vous ne pouvez pas construire sur une zone qui présente un risque important. Puisque même si vous avez un terrain qui est en zone rouge, dès lors que vous déposez un permis de construire à la mairie doit vous le refuser. Donc vous ne pouvez pas construire, sauf à construire sans demander à personne l'autorisation. Vous ne pouvez, si vous suivez le cheminement normal d'une demande de permis de construire, vous ne pouvez pas construire dans les zones les plus dangereuses. Restent des territoires qui vont être soit en zone blanche où vous n'avez pas de risque particulier, soit des territoires qui seront en zone bleue avec un risque moyen, un risque faible à moyen. Et dans ces territoires qui sont en, coloriés en bleu sur ces cartes de, des plans de prévention des risques naturels, on va vous imposer un certain nombre d'études qui vont vous permettre justement de construire correctement. Donc ça peut être, si vous êtes en zone d'inondation, on peut vous demander de construire d'une certaine façon, de ne pas avoir par exemple dans votre construction un sous-sol, ce qui tombe sous le sens. On ne va pas mettre un sous-sol en zone inondable parce qu'à la première inondation, il va être rempli d'eau. On peut vous demander d'avoir des planchers dans votre maison, des niveaux qui soient plus hauts que le niveau d'inondation pour pouvoir vous mettre en sécurité. Donc il va y avoir des règles spécifiques qui vont s'appliquer sur les zones colorées en bleu en fonction de l'aléa naturel, si c'est de l'inondation, du risque de mouvement de terrain, etc. Ça, ces risques-là, le risque d'inondation, de submersion marine ou le risque de mouvement de terrain, ils ne sont pas directement liés à la survenue de séismes. Par contre, il existe un type de... Les séismes peuvent induire des effets sur un type de sol particulier, ce sont les sols liquéfiables. Donc là, on peut...
Alors pour toutes ces personnes justement qui méconnaissent ce type de sol, qu'est-ce que c'est ?
Donc ces sols liquéfiables, ce sont des sols qui vont être directement affectés par l'onde sismique. Donc c'est un effet induit des séismes. Il y a un séisme qui se produit, les ondes propagent le sol, et quand elles arrivent dans des sols qui sont plutôt à dominante sableuse et dans lesquels il y a de l'eau, la propagation de l'onde sismique dans ces sols va les déstructurer. Et ces sols vont se comporter comme un liquide. Ils vont perdre toute leur portance. Et donc, vous comprenez bien que si votre maison est construite sur ces sols sans fondation spéciale, si les sols sous les fondations deviennent quasiment liquides, votre maison va s'enfoncer. Donc, ces phénomènes, ils peuvent entraîner une ruine partielle ou totale de la construction qui va s'enfoncer dans ces sols devenus mous. Donc en Guadeloupe, on a de nombreux secteurs, notamment en bord de mer et des secteurs qui sont déjà construits, qui sont susceptibles de se liquéfier. On en trouve quasiment sur toutes les communes de Guadeloupe.
Hein, à part Saint-Claude,
il n'y a aucune zone de sol
grande terre comme basse terre.
Sur toutes les communes de Guadeloupe, quasiment, on va retrouver. Alors c'est souvent cantonné sur la frange littorale. Donc dans ces sols qui sont liquéfiables, la seule technique de prévention et de protection consiste à bien identifier les sols et à faire un dimensionnement adapté des fondations et de la structure. Donc, encore une fois, une étude de sol spécifique de l'aléa liquéfaction par un bureau d'études géotechniques sera nécessaire pour dimensionner les fondations. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas construire dans les sols liquéfiables. On peut construire, mais en adaptant les techniques de construction à ce type de sol. Alors, c'est sûr que le risque sismique et les règles qui incombent, qui sont imposées par le risque sismique, elles sont pas toujours faciles à comprendre parce qu'on se dit mais le sisme des Saintes en 2004, il a quasiment pas fait de dégâts. On ressent de temps en temps des secousses sismiques et puis il y a rien qui se passe. Ma maison a résisté, donc elle est bien construite. Il faut savoir que le dernier gros sisme qu'il y a eu en Guadeloupe, et on sait qu'un sisme de ce type-là va se reproduire, il date de 1847 ou 49. Donc il a, ça fait quasiment 200 ans, ça fait plus de 150 ans en tout cas, qu'il n'y a pas eu un très très gros séisme. Mais on sait que comme on est dans une zone où les plaques tectoniques se chevauchent. Il y en a une qui plonge sous l'autre. Comme je disais en début d'émission, ces plaques, il y a des contraintes qui se forment dans ces sols. Les sols, ils se tassent, ils se déforment. Ça peut prendre des dizaines et des dizaines d'années. Ils vont continuer à se déformer de façon plutôt élastique,
oui,
jusqu'à un moment où la roche, elle peut plus accepter de continuer à être déformée et où elle va casser. Faut l'image la plus simple pour comprendre. Vous prenez une règle en plastique là et vous la fléchissez de part et d'autre. Elle se tord.
Et à un moment,
elle peut plus se tordre et elle rompt brutalement. Et ben, un séisme, c'est pareil. Donc, depuis le dernier gros séisme, les plaques, au niveau de la subduction, on est en train d'accumuler des tensions. Et on sait, les scientifiques en sont sûrs, qu'un jour ou l'autre, ces tensions vont devoir, ça va casser et ça va relâcher de l'énergie. Donc, ils vont faire ces fameuses ondes sismiques qui vont se propager. Donc, il faut absolument construire de façon parasismique, même si dans les 10, 20, 50, 60 ou 100 dernières années, on n'a pas eu de dommages majeurs en Guadeloupe liés à un séisme.
Prévention.
Et donc, du coup, on se dit, mais moi, ma maison, mon projet, c'est pour les 20 prochaines années, les 30 prochaines années. Dans 50 ans, je serai plus sur Terre. Voilà. Et non. Il ne faut pas penser comme ça. Il faut se dire, on ne sait pas quand le prochain gros séisme va arriver. On sait qu'il va arriver. On connaît des méthodes de construction qui sont adaptées. Alors, ça ne veut pas dire que votre bâtiment ne subira pas des dommages importants qui pourront conduire à sa ruine. Les constructions parasismiques, elles sont là pour que le bâtiment y tienne à peu près. Ça ne veut pas dire qu'il va rester intact. Hein. On ne peut pas garantir que votre bâtiment ne sera pas. Quand je dis bâtiment, c'est maison, c'est tout. Hein.
Mm-hmm.
On peut pas. Les normes parasismiques ne garantissent pas l'intégrité de votre bâtiment après la survenue d'un gros séisme. Elles sont faites pour que votre bâtiment y tienne à peu près et que vous soyez pas enseveli dessus. Voilà, ça. Mais il faut prendre en compte ces règles.
On sait très bien que les séismes se produisent le long des failles. Or, il y a des failles en Guadeloupe. Alors, est-ce dangereux de construire le long d'une faille?
Alors, effectivement, en Guadeloupe, on a de nombreuses failles. Certaines sont très très bien connues, dont d'autres sont assez peu documentées au niveau scientifique.
Est-ce qu'on peut les rappeler pour ceux qui...
Alors bon, des failles, bon, il y en a une par exemple le long de la nationale qui passe à Gosier, la route de la Riviera. À cet endroit-là, il y a une faille qui passe. Au niveau du bras de mer de Rivière Salée qui sépare les deux îles, il y a une faille. Il y en a en grande terre, sur les plateaux surélevés, point de vigie, tout ça, là on a des failles. Les failles qu'on voit très bien dans le paysage et qui sont le plus facile à comprendre, je pense, pour les gens, ce sont les deux failles qui encadrent la plaine de Gripon à Mornalo. La plaine de Gripon à Mornalo, c'est une zone qui s'est effondrée, qui est descendue. Et de part et d'autre, vous voyez, c'est tout plat, et de part et d'autre, hop, on a une ligne droite et avec les mornes qui montent. Et bien, cette ligne-là, délimitée par les mornes, qui s'arrêtent en ligne droite au niveau de la plaine de Gripon, de part et d'autre, ce sont des failles. Il y en a une aussi, Saint-François.
Oh, d'accord.
Et puis, il y en a plein sur la Basse-Terre, mais elles sont moins visibles dans le paysage. Et il y a des failles, bien sûr, au niveau du massif de la Soufrière, etc. Donc certaines de ces failles, et par exemple celle de la plaine de Gripon, là, sud Gripon, nord Gripon, à Mornalo,
oui.
Ça fait extrêmement longtemps, quand je parle longtemps c'est des âges géologiques, hein, c'est des dizaines ou des centaines de milliers d'années, où elles n'ont pas bougé. Donc ce sont des failles qu'on considère comme peu actives. Et puis il y a des failles qu'on va considérer comme actives, c'est-à-dire que... Alors, on est toujours dans des échelles géologiques. Hein. Ça veut dire qu'à l'échelle de milliers d'années, elles ont bougé ou elles peuvent rebouger. Et donc, ces failles-là, c'est pareil. Elles vont pas. La prise en compte de ces failles ne va pas être la même en fonction de la catégorie d'importance du bâtiment. pour une villa individuelle, la présence des failles, actives ou non, ne va pas entraîner de règles particulières. On ne construit pas asismique, mais on ne va pas empêcher les gens de construire à proximité d'une faille. Sinon, il y aurait des grandes zones du territoire où on ne pourrait pas construire.
Oui.
Par contre, si vous faites un bâtiment de catégorie d'importance 3 ou 4, ou des bâtiments qui vont recevoir du public et qui sont à proximité à proximité d'une faille, on va devoir, avant la construction de ces bâtiments, on doit faire des études très fines de la faille pour savoir comment, si cette faille bouge, quel sisme elle va pouvoir générer, et prendre en compte dans la structure du bâtiment la puissance, la puissance qui sera émise par ce séisme-là, et comment vont réagir le sol, et quels sont les déplacements qu'on va pouvoir attendre de la faille pour pouvoir dimensionner ce bâtiment correctement. Pour vous citer deux bâtiments, le Memorial Act, il y a ce type d'étude qui a été faite. Et pour le futur projet d'hôpital,
tout à fait.
Du côté de Perrin, là, ce type d'étude aussi a été engagé. Donc, ce sont des études qui sont à la limite de la recherche scientifique. Hein. On doit vraiment étudier des données fines. Enfin, c'est des études qui sont absolument pas à la portée d'un particulier. C'est des études qui coûtent des dizaines de milliers d'euros et qui font intervenir des spécialistes, des scientifiques, des gens qui travaillent à l'université. Ou, vous voyez, ça, on peut pas gérer cette problématique de faille à l'échelle d'une parcelle. Et avec des moyens lambda. Ça nécessite quand même une étude très très fine, mais on peut le faire. Donc ça ne concerne que des bâtiments qui sont, dans les plus grandes catégories d'importance. Si on veut résumer un peu tout ce qui a été dit, est-ce que je voulais aussi rebondir sur un autre point ? Tout à l'heure, je vous ai parlé des plans de prévention des risques naturels. Dans un avenir proche, il y aura aussi en Guadeloupe, sur toutes les communes de Guadeloupe, des plans de prévention dédiés aux risques sismiques uniquement. Donc sur la commune de Bémao et sur la commune de Gosier, ces documents sont en cours d'élaboration. Je ne pense pas qu'ils soient encore
accessibles,
disponibles.
D'accord.
Et donc, sur le territoire de la Guadeloupe, on sait qu'on est en zone de sismicité 5,
oui.
La zone la plus forte. Mmh. On va pouvoir établir des cartes où on va pouvoir dire, attention, à tel endroit, le sisme, s'il y a un sisme qui survient, il va avoir tel impact sur les sols. On va avoir on va retrouver ces fameuses cartes de sol liquéfiable. On va avoir des cartes qu'on appelle d'effet de site, des zones où les ondes sismiques vont pouvoir se concentrer, être plus fortes que ce qu'elles arrivent. Donc, on va avoir des plans de zonage qui sont vraiment sur le risque sismique et qui vont permettre non seulement de voir les zones les plus appropriées ou pas, mais d'avoir plus facilement les informations pour le dimensionnement des bâtiments. Par exemple, je suis un peu passée rapidement dessus, mais tout à l'heure, je vous ai dit que la nature du sol était prépondérante pour le dimensionnement de la structure. Donc, on a différentes classes de sol. Et ben, ces cartes vont pouvoir délimiter les différentes classes de sol sur le territoire. Donc, on va savoir que à tel endroit, c'est un sol de classe A à prendre en compte, donc avec certains paramètres qui sont liés. Dans d'autres endroits, ça sera un sol de classe C avec des paramètres différents qui seront liés, qui seront utilisés par l'ingénieur structure. On va avoir ces PPRN. Deuxième nécessité, construire aux normes parasismiques. Elles sont obligatoires, ces normes. Hein. Le respect des codes et de la législation, elle incombe à chacun. Donc, quand vous faites intervenir un constructeur, un maçon, un ingénieur géotechnicien, un ingénieur structure, ils doivent réaliser un travail en fonction de ces normes parasismiques qui s'appliquent. S'ils ne le font pas, ils sont en faute professionnelle. Donc, construire aux normes parasismiques. Pour bien construire aux normes parasismiques, nécessité, je dis bien nécessité, mais pas obligation dans tous les cas, de faire une étude de sol. Pour les constructions existantes, si vous ne faites pas de changement dans votre structure, vous n'êtes pas soumis aux nouvelles règles. Si vous faites des changements, des modifications dans la structure de votre maison, attention, les nouvelles règles vont s'appliquer, mais de façon plus ou moins modulée, suivant les travaux que vous engagez. Et dans tous les cas, faire intervenir un ingénieur structure qui va pouvoir envisager les travaux. Vous pouvez aussi demander, vous avez des doutes sur la qualité de votre maison, vous pouvez faire des travaux de confortement. Donc ce sera ni des extensions, ni des aménagements, mais ça sera juste... Je renforce le confortement, c'est renforcer la structure de ma maison pour qu'elle soit plus résistante au séisme. Et puis, le principe qu'il faut garder en tête, quand on a une construction existante et qu'on y fait des modifications, ne pas entraîner une plus grande vulnérabilité de votre bâti par rapport à sa structure, quoi. Donc, il faut bien faire attention. Donc après, et pour finir, si vous achetez un terrain ou un bien, dès l'instant qu'il n'est pas en zone rouge, donc des zones inconstructibles, vous allez avoir un certain nombre de risques qui peuvent s'y passer, mais il y aura des solutions, il y aura des recommandations, il y aura une réglementation qui va s'y rapporter.
Voilà, mais en tout cas, on vous remercie pleinement. Était belle votre synthèse.
Voilà.
Merci beaucoup, Madame Thonon. On rappelle simplement qui vous êtes, Madame Thoron, géotechnicienne. Merci pour toutes ces précieuses informations. Vous nous reviendrez prochainement, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait, avec une nouvelle thématique. Ce sera le 12. Oui. Dès le mois prochain, avec les mouvements de terrain, nous aurons aussi l'occasion d'en discuter pleinement avec vous. Ben déjà, merci encore et on se dit à très bientôt. Merci.
Au revoir, à bientôt.
Au revoir, à bientôt.